Docteur Bobot, bonjour.
Oui, bonjour.
Dans votre laboratoire, vous vous intéressez particulièrement aux liens entre la mémoire, le mouvement, les déplacements. Bien sûr, c'est super intéressant, très spécifique, mais d'entrée de jeu, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait appel, qu'on utilise notre mémoire.
Donc d'abord, il y a plusieurs différents types de mémoire, hein. On peut parler en général de la mémoire en étant une capacité, par exemple, d'encoder de l'information, de la stocker, d'être capable de la ressortir, mais il peut y avoir de différentes façons. Et par exemple, quand on a appris un instrument de musique et qu'on le fait plus automatiquement après avoir eu des heures d'entraînement, ça découle quand même d'un certain type d'apprentissage et de la mémoire. Et ça, ce serait de la mémoire plus procédurale, donc des habiletés et des habitudes. Mais je pense que quand on parle de mémoire dans la vie de tous les jours, souvent on fait référence à plutôt un type de mémoire qui s'appelle une mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des événements qui se passent dans notre vie. Est-ce que c'est bien ça ce que vous me demandez?
Oui, bien sûr. Et ça me fait penser, cette question-là, souvent quand on se demande, bon, qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 semaines? Bon, on s'en rappelle pas, mais quand c'est associé à des événements très émotifs, là, à ce moment-là, on s'en rappelle. Est-ce que c'est un peu ça, la mémoire épisodique?
Alors, en fait, la mémoire épisodique met en lien beaucoup d'aspects différents. Ça va mettre en lien l'endroit où on a encodé cette mémoire. Mm-hmm. Donc, ça va être la mémoire spatiale. Donc, dans cet environnement-là, il s'est passé quelque chose. Moi, j'étais à tel endroit au dernier jour de l'an. Là-bas, il y avait des personnes en particulier. Il y avait certains amis que j'avais pas vus depuis longtemps. Il y avait des discussions que j'ai eues avec certaines personnes. Il y avait de la nourriture, il y avait des odeurs. Et bien oui, il y aurait pu y avoir des émotions. Donc, les émotions, c'est une des composantes de ce qui forme une mémoire épisodique.
Donc, il y a beaucoup de composantes dans notre mémoire et plusieurs types de mémoire, est-ce que j'entends bien?
Absolument.
Oui.
Et d'ailleurs, il faut le mentionner parce que les différents types de mémoire dépendent de différentes parties du cerveau. Et c'est là ma spécialisation, en fait. J'ai passé les derniers beaucoup d'années de ma vie.
On s'en rappelle plus combien d'années.
À essayer de dissocier ces types de mémoire qui dépendent de différentes parties du cerveau. Parce que justement, j'étais intéressée de voir mais comment est-ce que ça se préserve avec les années, au cours de la vie, et si on peut même après ça prédire des risques de maladies neurologiques et psychiatriques à cause du fait qu'on exerce plus ou moins certains types de mémoire. Donc ça va très spécifique. Voilà, donc je pense résumer en survol comme ça.
Oui, et justement, parlons-en de ces parties du cerveau qui sont reliées au fonctionnement de la mémoire. Quelles sont ces parties-là?
Oui, donc il y a 2 parties en particulier qui sont vraiment importantes. Il y a l'hippocampe, qui est une partie du cerveau qui est à peu près au niveau de l'oreille. C'est dans le lobe temporal médian. Et c'est la partie du cerveau qui va se dégrader avec la maladie de l'Alzheimer. Vous savez, quand les personnes sont atteintes de la maladie de l'Alzheimer, d'abord, on retrouve justement des pertes de mémoire, dont des pertes de mémoire spatiale en particulier. Les gens vont se perdre plus souvent, vont oublier des événements importants. Donc, il y aura des caractéristiques comme ça. Alors qu'il y a une autre partie qui est importante aussi pour la mémoire qu'on peut utiliser, qui va plus être impliquée dans la mémoire procédurale, le développement des habitudes, et ce sont les noyaux codés. Et comme de fait, les noyaux codés font partie d'un amalgame de structures qui sont impliquées dans la maladie du Parkinson. Donc, c'est un peu pour ça que... Vous voyez, donc quand on voit des personnes atteintes de la maladie du Parkinson, ils vont avoir des mouvements moins fluides, mais aussi un langage moins fluide. Donc, il y aura moins d'automatisme, moins d'habilités qui vont ressortir comme avant facilement.
Donc, c'est pas la même région du cerveau qui est atteinte?
Pas du tout, exactement.
Et lorsque l'on parle d'Alzheimer, c'est l'hippocampe qui serait atteint. Est-ce que on pourrait déterminer, est-ce que l'on sait si ça serait possible de prévenir par l'étude de cette partie du cerveau?
Voilà, donc en fait, ce que beaucoup d'études ont démontré, c'est que une atrophie de l'hippocampe est un facteur de risque important à la maladie de l'Alzheimer. Il y a d'autres études plus sophistiquées qui ont montré qu'il y a aussi des régions connexes à l'hippocampe qui se nomment cortex entorhinal. Donc, c'est une région associée. Donc, ces deux régions-là sont vraiment importantes et se dégradent très tôt. Alors, ce qu'on trouve, c'est que, pas nous dans notre laboratoire, mais d'autres grands laboratoires qui ont suivi des patients pendant des années, ils ont vu que ceux qui étaient encore en bonne santé, mais qui avaient un hippocampe plus atrophié, étaient ceux qui, plus tard, des années plus tard, vont avoir la maladie d'Alzheimer.
Vont développer cette maladie.
Voilà. Donc, dans ce sens, c'est important de garder son hippocampe en bonne santé, d'avoir un volume qui représente le fait que cette partie du cerveau est bien utilisée.
Mais ça, on fait ça comment, docteur Bobotte?
Bon, ben voilà. Donc, voilà la grande question. Et c'est sur ça que je me spécialise, justement, parce que j'ai fait attention, comme je mentionnais plus tôt, de dissocier les différentes stratégies. Et ce qu'on a trouvé, c'est que même chez les jeunes adultes, on voit déjà des différences de volume à l'hippocampe dépendant des stratégies qu'on va utiliser quand on va se déplacer dans la vie de tous les jours.
Et ça, c'est la mémoire spatiale.
Exactement. Donc, oui. La mémoire spatiale nous aide, c'est un bon modèle qui nous aide à aller chercher la fonction de ces deux différentes parties du cerveau. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que dans un cas, quand on utilise la mémoire spatiale qui dépend de l'hippocampe, on va étudier les points de repère dans l'environnement. On va connaître les relations entre les points de repère. Ça veut dire que je peux me déplacer avec ce qu'on peut appeler le GPS interne, c'est-à-dire un sens d'orientation interne à nous qui fait qu'on sait dans quelle direction il faut aller si, par exemple, on avait notre chemin habituel complètement barré. Donc, il faut être capable de dissocier ce genre de stratégie-là, donc de mémoire spatiale qui dépend de l'hippocampe, d'une autre stratégie qui ne dépend pas de l'hippocampe, qu'on appelle de réponse par stimuli. On va trouver des stimuli dans notre environnement et on sait que quand on voit, par exemple, la station d'essence, il faut tourner à droite. Quand on veut être au bout de la rue, on sait qu'on veut tourner à gauche. Et puis, à une certaine lumière où il y a peut-être un certain dépanneur, on va tourner à droite. Mais on ne connaît pas nécessairement la relation entre les différents points de repère. Donc, je vous ai mentionné plusieurs points de repère, mais on ne serait pas capable de faire un plan vu de haut qui serait en proportion, par exemple. Alors qu'avec une carte cognitive qui implique connaître la relation entre les points de repère, mais on est capable de faire ce plan vu de haut. Donc, ce qui se passe avec la mémoire spatiale versus la mémoire de réponse par stimuli, c'est qu'on peut les dissocier facilement. Je vais vous expliquer comment on fait ça dans le laboratoire. On va amener des sujets à faire un test où on leur demande de mémoriser l'emplacement d'objets. Et ils ont des points de repère qu'ils peuvent utiliser. Après avoir appris le test, on enlève les points de repère. Et on peut voir qu'il y a certaines personnes qui se déplacent parfaitement bien sans les points de repère.
Donc, ils vont savoir où était le crayon, où était la tasse, par exemple.
Exactement.
OK. Et d'autres, ils n'auront pas de souvenirs.
En fait, dans mon test, ils vont faire des gauches-droites. Ils vont savoir qu'à partir d'ici, il faut que j'aille tout droit. Puis au coin, je vais tourner à droite. Après ça, je vais sauter deux chemins et je vais passer à l'autre à gauche.
Oui.
Et en faisant ça, ils sont capables de trouver tous les objets dans l'environnement sans faire d'erreur. Et là, comme ça, on peut dissocier les différentes stratégies. Et c'est là que toute notre recherche a commencé à révéler des choses vraiment excitantes. C'est-à-dire que même chez les jeunes adultes, on trouve que les deux différentes stratégies impliquent une fonction des deux différentes parties du cerveau, mais pire ou ce qui est mieux, dépendant de sa perspective, c'est qu'on va avoir la matière grise de l'hippocampe et des noyaux codés qui vont refléter justement l'utilisation des deux stratégies.
Et je m'intéresse un petit peu à l'impact que ça peut avoir dans notre quotidien, Dr Bobotte. Par exemple, je sais exactement le trajet que je dois prendre pour aller au boulot. Je fais toujours le même. Je le sais par cœur. Est-ce qu'une stratégie qui pourrait être efficace pour préserver ma mémoire serait d'utiliser un nouveau trajet pour aller au boulot?
Bon, alors c'est une excellente question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on répète la même chose encore et encore, ça devient une habitude, ça ne dépend plus de l'hippocampe. Un exemple, quand c'est une habitude, c'est un jour où on ne va pas au boulot et on se retrouve à prendre le même chemin pour aller au travail et même on prend la mauvaise sortie alors qu'on n'avait pas planifié de prendre cette sortie-là quand on était sur la route. Donc, là, c'est vraiment une preuve que le système d'habitude a pris le dessus. Alors, c'est quelque chose qui va être efficace dans un certain contexte,
oui.
C'est-à-dire la journée qu'on va au travail, on fait ça vite, 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 sans réfléchir. On n'a pas besoin de planifier, de prendre des décisions. Donc, ça peut être efficace dans ce contexte. Mais si on sort du contexte d'aller au travail, c'est quelque chose qui devient vraiment pas efficace puisque là, on a pris la mauvaise sortie, on s'est perdu, etc.
Oui.
Donc, dépendant du contexte, on va avoir une stratégie qui va être plus efficace que l'autre. Donc, quand on a quelque chose de répété, on va utiliser plus les noyaux codés et c'est efficace, c'est rapide, on fait moins d'erreurs. Mais quand on sort de nos habitudes, ben là, c'est pas efficace du tout de prendre la sortie pour le travail ou prendre la sortie qu'on a l'habitude de prendre. Et pour répondre à la question, dans tous les cas, quand on travaille le système d'habitude, ben on travaille pas l'hippocampe.
Mais
donc,
ouais,
on
voilà.
arrête de stimuler l'hippocampe. Et donc, pour répondre à votre question, prendre de nouveaux chemins, oui, c'est exactement ce qu'il faudrait faire si on veut vraiment essayer de travailler l'hippocampe. Mais il faut accepter que dans notre société, ça va prendre un peu plus de temps. On est une société qui a tendance à vouloir être toujours plus rapide, plus efficace, être à la course.
Oui, mais...
En fait, j'ai quelque chose de drôle à vous raconter. Quand je donne des conférences publiques, souvent je demande à mes participants, à l'audience, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont contents quand ils se perdent? Et la plupart des gens rigolent comme vous. Alors, pourquoi je pose cette question? C'est parce que justement, si on veut stimuler notre hippocampe, il faut accepter que des fois, on va prendre des détours, on va prendre des mauvais chemins parce qu'on est en train maintenant de prendre quelque chose qui est de naviguer d'une façon qui est moins efficace.
Moins efficace, mais préférable pour la santé de notre mémoire.
Voilà.
Ouais.
Et c'est ça ce qu'il faut discerner parce que tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on pense que c'est bien d'avoir un meilleur score, une meilleure
de rapidité,
performance,
d'efficacité,
on va pas stimuler l'hippocampe.
Ouais, donc apprendre et accepter à prendre de nouveaux chemins, c'est assez sage, ça, Dr Bobot. Comment on explique que certaines personnes ont une meilleure mémoire que d'autres?
Ben voilà, donc ça dépend du contexte. Alors, si on prend quelque chose qui est répété, 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 il y a certaines personnes qui vont acquérir la répétition beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc, ils vont paraître comme s'ils ont une meilleure mémoire, mais ça peut être parce qu'ils ont des noyaux codés plus développés. Et ça va être juste dans ce contexte très limité. Ça ne va pas s'étendre dans d'autres domaines. Alors que si quelqu'un développe des relations, ça va prendre plus de temps. Donc, le temps d'apprentissage va peut-être être un peu plus long. Mais à long terme, cette personne-là va avoir acquis l'équivalent d'une carte cognitive dans d'autres domaines qui va être beaucoup plus puissante pour justement trouver des raccourcis dans notre environnement ou trouver des raccourcis ou être créatif à trouver des solutions peut-être dans d'autres contextes. Vous comprenez? Donc, ça dépend du contexte. Et on a tendance à juger très facilement qu'un score meilleur, c'est mieux, etc. Mais ça dépend de comment est-ce qu'on le mesure.
C'est fascinant de vous parler. J'aurais encore tellement de questions, mais le temps file et je veux bien sûr aborder avec vous cette recherche qui vient récemment de sortir de votre équipe et d'une autre équipe aussi. Bon, à savoir, les jeux vidéo, oui, ils auraient des effets positifs sur l'attention, mais ne protégeraient pas nécessairement de troubles neurologiques comme la maladie d'Alzheimer.
Oui, c'est un article qui vient de sortir. Ce qu'on a trouvé, c'est exactement ça, c'est que les gens qui jouent des jeux vidéo spécifiques, hein, on parle des jeux de tir à la première personne qu'on nomme des jeux d'action. Alors, les jeux vidéo d'action sont des jeux que certaines personnes jouent. On a après ça mesuré les stratégies dont on a parlé chez ces personnes-là. Et ce qu'on a trouvé, c'est que 80% des gens qui jouaient les jeux vidéo d'action utilisait la stratégie qui dépend des noyaux codés. Et ça, cette stratégie-là, donc de réponse par stimuli, est à tort pour l'hippocampe. Ça veut dire qu'ils ne vont pas nécessairement travailler leur hippocampe.
Ouais, OK.
Et on a 4 autres études publiées qui montrent que cette stratégie-là, qui dépend, donc, qu'on appelle de réponse par stimuli, implique une diminution de l'activité de l'hippocampe et une diminution de la matière grise à l'hippocampe.
Donc, ça fait un lien vraiment avec tout ce que l'on raconte depuis tantôt, hein?
Exactement.
Ah, bon, alors, on va guider, bien sûr, nos auditeurs vers cette étude-là. Ils pourront en savoir plus sur votre travail. À vous, www.douglas.qc.ca. On pourra trouver tout ce que vous mijotez dans votre labo avec votre équipe. Docteur Véronique Bobot, je rappelle, vous êtes neuroscientifique, chercheuse à l'Institut Douglas et professeure à l'Université McGill et l'Institut de recherche Douglas. C'était très intéressant de vous parler.
Merci beaucoup. Et j'ai aussi un site web d'information pour le public qui s'appelle vebosolutions.com si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations spécifiquement sur ce dont on a parlé aujourd'hui.
Ah ben, on le glissera également sur le site du Canal M.
Excellent. Merci beaucoup.
Au revoir.